Henri III, mission impossible. Charles IX est remplacé par son frère Henri III. Les catholiques et les protestants s'affrontent de plus belle, et le roi de France va se sentir plus d'une fois menacé, jusqu'à son dernier jour.
Oh, ma nourrice, oh, que de sang, que de meurtre! Que j'ai suivi un mauvais conseil.
Ce sont les dernières paroles de Charles IX, qui meurt le 30 mai 1574, rongé par la tuberculose. L'année précédente, en 1573, des places fortes protestantes se sont révoltées, notamment celle de La Rochelle, de février à mai, mois où Henri d'Anjou apprend qu'il est devenu roi de Pologne, en vertu des alliances diplomatiques. Henri d'Anjou n'est pas enchanté du choix des Polonais. C'est en traînant les pieds qu'il prend le chemin de son nouveau royaume. Il laisse en France celle qu'il aime, sa maîtresse, Marie de Clèves, l'épouse d'Henri de Condé. En Pologne, tout est fait pour lui rendre la vie agréable, mais rien ne parvient à le distraire de sa nostalgie des fêtes du Louvre, de Paris, de son agitation insouciante. Le 14 juin 1574, il apprend par un message de sa mère Catherine de Médicis que son frère Charles IX est mort. Comment quitter son royaume de Pologne? On ne le laissera certainement pas partir. Pourtant, il désire plus que tout retrouver la France, Marie de Clèves, qu'il aime plus que jamais, et puis monter sur le trône, afin que personne d'autre ne s'en empare. 16 juin 1574. La nuit est sans lune ce soir-là, au château de Wawel, en Pologne. Une corde pend d'une fenêtre faiblement éclairée, au deuxième étage. La fenêtre s'ouvre. Une silhouette, enveloppée de noir, saisit la corde et se laisse glisser jusqu'au sol, où l'attendent quelques cavaliers. Un cheval sellé est prêt pour l'homme en noir qui l'enfourche. La petite troupe détale au trot pour n'éveiller personne. Henri d'Anjou vient de s'échapper de son royaume de Pologne. Il s'élance vers le sud. Derrière lui, il fait détruire les ponts afin qu'on ne le rattrape pas. Le lendemain soir, il est à la frontière autrichienne. Le 23 juin 1574, il arrive à Vienne où il est accueilli avec faste et dépense une fortune. Puis il décide de se diriger vers le pays de sa mère, sans se presser, l'Italie. Sa venue est annoncée à Venise. La ville lui prépare une fête grandiose. Des milliers de gondoles décorées d'or et de pourpre, des haies d'honneur, des dizaines de personnalités les plus éminentes, et le soir, des feux d'artifice, des banquets, des bals. Tout cela enchante Henri d'Anjou, qu'il faut désormais appeler Henri III. Et puis, toutes les Vénitiennes sont sur le pied de guerre. Le nouveau souverain français est beau, il est élégant et il dépense sans compter. À Vienne, il a laissé 150 000 écus. Henri III fait la rencontre de Veronica Franco, une rencontre favorisée par Alphonse d'Este, petit-fils de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Veronica fait partie des courtisanes vénitiennes, des professionnels dont on peut trouver le nom classé par numéro dans un petit guide des plaisirs distribué dans toute l'Italie. Afin d'être reconnue, elle porte un châle jaune, châle qu'on peut repérer même à la messe qu'elle fréquente assidûment. Véronica est d'une grande beauté, elle a servi plusieurs fois de modèle au peintre Le Tintoret, elle est cultivée, compose des poèmes et joue du luth. Henri possède une culture étendue et raffiné. Henri et Véronica se séduisent, se plaisent tant que le roi ne veut plus quitter Venise. Il faut que Catherine de Médicis se fâche et envoie le duc de Savoie auprès de son fils pour que celui-ci consente à rentrer. Une consolation, il demandera l'annulation du mariage de sa maîtresse Marie de Clèves afin de l'épouser. Le 2 septembre, il est à Chambéry, où il retrouve François d'Alençon, son frère, et Henri de Navarre. Le 6 septembre, sa mère vient l'accueillir à Lyon. Les Polonais, qui ont appris sa fuite, sont en colère. Pour eux, ce roi qui s'est enfui la nuit est un voleur qui a dilapidé leur trésor et un traître. Malheur. Le 30 octobre 1574, Henri III vient d'arriver à Avignon. La nouvelle qu'il y apprend le pétrifie et va le plonger dans une douleur affreuse. Pendant 10 jours, il refuse de s'alimenter. Il va alterner les cris de détresse et les processions de pénitents dans une sorte de délire mystique qui fait craindre pour sa raison. Marie de Clèves, celle qu'il aime, sa maîtresse, l'épouse d'Henri de Condé, vient de mourir en couche. Catherine s'en inquiète. Elle s'inquiète aussi des menées de Montmorency d'Amville, gouverneur du Languedoc, fils de son ancien connétable, qui, après avoir vigoureusement défendu le parti catholique, penche maintenant pour celui des protestants.
Heureuse Louise. Le 13 février 1575, Henri III s'apprête à entrer dans la cathédrale de Reims où il va recevoir la couronne et les onctions qui vont faire de lui le roi de France. Partant pour la Pologne 2 ans auparavant, il avait rencontré en Lorraine Louise de Vaudémont. Il avait été frappé par sa ressemblance avec Marie de Clèves qui vient de disparaître. C'est elle qu'il a choisie pour épouse et reine. Le jour du sacre, Henri III, qui a cousu lui-même les pierreries sur ses étoffes cérémonielles, change 7 fois de tenue. Lorsque le cardinal de Guise lui met la couronne sur la tête, il a un malaise, car il a dû rester à jeun pour respecter la tradition. La couronne, à 2 reprises, glisse sur sa tête et il s'en faut de peu qu'elle tombe à terre. Autant de présages qui font dire aux superstitieux que le règne se passera mal. Le 15 février a lieu le mariage d'Henri et de Louise. C'est lui qui la coiffe. Et il met tellement de temps à façonner les cheveux de la reine que la cérémonie doit être reportée dans l'après-midi. Si Henri regrettera toujours Marie, la belle Louise, sa femme, lui voue une véritable admiration. Elle aime comparer sa vie à un conte de fées. Enfin quelqu'un d'heureux.
En septembre 1575, Catherine de Médicis apprend une nouvelle qui la terre. Son fils, François d'Alençon, le frère du roi, vient de rejoindre le camp des Huguenots, le camp des Condés, celui des rebelles. C'est un coup dur qu'atténue un peu la victoire que remporte Henri de Guise à Dormans contre les protestants le 10 octobre. Au cours de cette bataille, il reçoit un méchant coup de pertuisane à la joue. Il en conservera une cicatrice qui lui procurera le même surnom que son père, le Balafré, ou plus précisément, le second Balafré. Henri de Navarre, son gendre, en fuite le 5 février 1576, François d'Alençon, son fils, passé dans le camp des protestants. Catherine, lasse de lutter, accepte de signer la paix à Étigny, près de Sens. Paix qui sera confirmée le 7 mai 1576 par un édit de pacification, l'édit de Beaulieu. François d'Alençon, frère du roi, dicte les conditions. Il reçoit l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Berry. La Guyenne est confiée à Henri de Navarre, la Picardie à Condé. Les protestants reçoivent 8 places fortes. La liberté du culte protestant est rétablie, sauf dans Paris et les villes closes. Les victimes de la Saint-Barthélemy sont réhabilitées. Ces conditions de la paix de monsieur, appelées ainsi car elle est l'œuvre du frère du roi, très favorable aux Huguenots, vont déclencher la constitution de la Ligue catholique.